Passionnément Vôtre. Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence Figeac 97.7. Comme chaque semaine, notre émission donc hebdomadaire Passionnément Vôtre, où on rencontre bien sûr des passionnés. Et cette fois, nous accueillons donc Ludo Andrieux. Alors Ludo Andrieux, bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour.
Merci d'être venu. Je sais que tu viens de la nuit Joule, je crois.
C'est ça, tout à fait.
Voilà, donc tu es venu nous rendre une visite à Figeac et on te remercie pour le déplacement. Et du coup, j'aimerais savoir, donc avant d'aborder, parce qu'en fait, tu prônes l'autonomie au niveau la vie de tous les jours, et se nourrir, oui. Électricité et tout. Et avant, j'aimerais juste savoir, voilà, ton enfance, ton parcours professionnel, scolaire.
Alors, je suis un Navarronais pure souche. Je suis né à Decazeville, j'ai grandi à Flagnac. Parcours scolaire, j'ai fait le collège. L'école, c'était pas trop pour moi, je me plaisais pas. Je faisais le minimum syndical. Mmh. Et donc, du coup, à la fin du collège, je suis parti en lycée professionnel. Là, j'ai fait un CAP de maçonnerie à Aubin. Et là, par contre, j'ai aimé travailler les pierres, tout ce qui était le bâtiment, les châteaux, tout ça, ça me plaisait. Donc, du coup, j'ai continué. Là, les notes, elles ont explosé parce qu'en fait, j'avais des capacités. Et là, j'avais trouvé où le faire. Ce qui me plaisait, voilà. Donc j'ai fait un bac professionnel, après j'ai travaillé un petit peu chez un artisan, puis j'ai passé une sorte de concours pour aller faire l'école nationale de conducteur de travaux à Toulouse, pour faire le métier d'encadrant, quoi, hein. Mm-hmm. Conducteur de travaux, tu fais du planning, des maîtrés, des chiffrages, des choses comme ça, des réunions avec les chefs de chantier. Et puis après, j'ai travaillé dans la maçonnerie, et j'ai fait du boulot comme chef d'équipe, chef de chantier, parce qu'à l'époque j'ai eu mon diplôme conducteur de travaux très jeune, à 20 ans. Et à l'époque, c'était il y a plus de 27 ans, tu n'avais pas de responsabilité malgré que tu aies un beau diplôme. Maintenant, c'est un peu plus différent. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et donc après, je fais conducteur de travaux chez un constructeur de maisons individuelles. Donc là, j'ai pu voir un peu la construction en tout corps d'état avec tous les autres métiers. Et puis après, j'ai fait conducteur de travaux dans une entreprise de bâtiment. Et après, j'ai créé ma propre boîte de maçonnerie que j'ai tenu pendant 13 ans. J'avais démarré avec deux ouvriers et quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais un équivalent de 13 employés. Voilà.
Et du coup, donc, c'est pour ça qu'on t'a invité, donc, parce que tu as passionné devenu ton métier. Du coup, tu as basculé du bâtiment à
l'autonomie. Voilà,
alors, j'adore ce titre, je te l'ai dit tout à l'heure dans les coulisses. Ça s'appelle Autonomia, tu nous as expliqué ce que c'est. Et j'avoue que pour moi, ça fait série TV, ça claque. Autonomia, j'ai l'impression que c'est une série sur Netflix qui va démarrer.
Mais, écoute, apparemment, il paraît que je n'ai pas été trop mauvais, pareil sur le logo. Hein, parce que pourtant, c'est un truc que j'ai fait lors d'une formation avec Canva. Donc, un truc stylisé avec un A pour mon nom de famille. Et puis, les couleurs de la nature et une plante qui pousse. Parce qu'autonomie, c'est l'autonomie au sens large. Moi, je me suis passionné. Ça fait 15 ans que je suis passionné. J'étais faire des formations sur la permaculture, sur savoir tailler, faire des greffes, tailler la taille douce, tout ce genre de choses. En fait, quand j'ai grandi à Flagnac, ma grand-mère avait une petite ferme qui était à l'arrêt depuis longtemps, puisque mon grand-père était décédé bien avant que j'arrive. Mais j'ai pu voir les infrastructures, j'ai vu le poulailler en service, j'ai vu quand on tuait le cochon, quand j'étais petit. Moi, j'avais 12 ans, je tenais le lapin quand ma grand-mère le tuait. Donc j'ai eu une approche où j'ai pu voir un peu ce genre de choses. Par contre, mes parents ne faisaient pas les concerts, ne faisaient pas tout ce genre de choses. Et ma grand-mère est décédée quand j'avais 14 ans. Et donc je trouvais qu'il manquait quelque chose, que ce savoir-faire de voir ce que faisaient les anciens, comment ils travaillé à l'époque, ben ça me manquait de pas l'avoir. Donc du coup, j'ai été le rechercher parce que j'avais envie de savoir comment ben, une faux, comment ça se tient, comment ça se pique, comment ça s'aiguise. Voilà. Et donc du coup, j'ai été... ça fait 15 ans que je suis passionné par ça. Quoi.
Voilà. Donc voilà, on est d'accord, tu as mûri ça pendant 15 ans. Et donc, alors comment ça se fait que ça y est, tu as réussi à franchir le cap et de lancer Autonomia? Et d'ailleurs, profitez-en, bien sûr, pour nous la présenter en long et en large.
Alors, pourquoi? Bon, disons que ça fait déjà des années que j'ai un regard un peu critique sur la société actuelle, que toute cette ultra-consommation, cet apparatif, il faut avoir le dernier téléphone, on te pousse, tout ce genre de choses. J'étais pas trop là-dedans, mais après, tu es aussi pris par la vie parce que tu as un crédit à payer et tout. Et puis, si tu as des revenus qui vont bien, eh bien c'est tellement dur pour tenir. Moi, quand j'avais la boîte, tu faisais quasiment 70 heures par semaine. Et donc, c'était tellement dur que ben, tu te faisais plaisir, tu allais au restaurant le week-end et tout. Mais au final, à la fin du mois, tu avais tout ramé. Quoi. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai ma compagne qui a été gravement malade. Elle a fait 3 semaines de coma. J'ai dû bosser pendant qu'elle était dans le coma, faire toujours tourner l'entreprise. Donc, c'était une période très compliquée, se lever très tôt le matin. matin, travailler une demi-journée, puis après partir à Purpan et rester jusqu'à 11h du soir, dormir 5h et recommencer, ben là tu gamberges, tu te dis est-ce que ça vaut le coup, est-ce que vraiment c'est ça. Et déjà à l'époque, on s'était retrouvé avec ma femme sur ces points communs, sur cette vision de la vie, d'une vie plus saine, peut-être moins rapide, mais avec une décroissance en consommation et tout ça. Et donc, on avait déjà mis en place un lieu qui tendait vers l'autonomie sur Saint-Porquier. Et en fait, moi, je faisais rentrer les sous et ma compagne faisait en sorte qu'on n'en dépense pas, puisqu'on avait un verger déjà à l'époque. On avait nos propres poules, on faisait nos poussins, on faisait le cochon chaque année. Donc, on était déjà pas mal. Et quand ma femme est tombée malade, eh bien, tout s'est cassé la gueule. Parce qu'en fait, il fallait quelqu'un à temps plein pour s'occuper du jardin, des poules, de tout ce genre de choses. Sauf que moi, c'était plus possible. Entre la rééducation de ma femme, qui a du tout apprendre à manger, parler, enfin, tout ce que tu veux dire, ben, je pouvais pas. Donc la permaculture, ça permet de faire des choses fertiles. Mais quand on est arrêté, j'avais des ronces de 2 mètres sur mes, sur mes buttes. Donc voilà. Et donc... pour ça que j'ai arrêté l'entreprise. J'avais un peu l'impression d'être comme schizophrène. La semaine à fond et le week-end, profiter de ton havre de paix. Et j'aspirais à autre chose. Donc du coup, là, on a revu les priorités. J'ai décidé de fermer l'entreprise. Et après, comme toute la famille était en Aveyron, on a dit on va se rentrer en Aveyron. Voilà. Et donc du coup, j'ai acheté une maison à la Nuit-Joule. C'était une ancienne petite ferme vivrière sur 2 hectares. Bon, à l'époque, il y avait plus de terre, mais ça s'est revendu. Et je l'ai retapé. Et cette maison, je l'ai rendue autonome. Et au fur et à mesure où les travaux avançaient, j'ai dit, mais quand même, tout ce que je fais, par là où je passe, les questions que je me pose et tout, ça pourrait rendre bien service à d'autres personnes. Et donc, du coup, je vais me servir de ce que j'ai fait chez moi, d'en faire une maison vitrine. Je sais que ce n'est pas la seule, je sais qu'il y en a une qui est bien plus ancienne et qui existe dans l'autre bout de la France. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas en Aveyron, ben, on est chez soi, on va hisser l'étendard de l'autonomie, et puis on va expliquer, ben, moi, je ne prétends pas tout savoir, mais j'ai dit, moi, voilà ce que j'ai fait, ça marche chez moi. Et donc, si vous voulez le reproduire, je peux facilement le re-expliquer. Et donc l'année dernière, au mois de juillet, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Autonomia AK, parce que Autonomia était déjà pris, c'est apparemment une entreprise de services pour des maintiens de gens à domicile. Voilà. Donc du coup, je voulais pas être embêté avec le droit de propriété, donc le nom de mon entreprise, c'est Autonomia, Autonomie, Conseil, Apprentissage. Et donc vraiment, ça situe un peu ce genre de choses, quoi. Voilà.
Et donc j'ai vu donc sur ton... sur ta plaquette, mais aussi sur Internet, tu proposes donc des stages, des ateliers. Donc, ouais. Qu'on peut trouver chez toi pour devenir autonome?
Alors, ben en fait, j'ai développé une formation, parce qu'avec mon côté de conduite de travaux, de gestion de projet, tout ça, j'étais déjà formé dans le bâtiment avec le planning et tout ce genre de choses. Et la gestion humaine, la gestion des fournitures, tout ce genre de choses. Et j'ai adopté ce côté d'entrepreneur, de chantier, à l'autonomie. Moi, je ne suis pas spécialement axé sur le jardin, la permaculture. Bon, la permaculture, ce n'est pas que du jardin, on est d'accord. Mais je voulais vraiment le montrer sous une formation en gestion de projet et surtout la maison. Parce que pour moi, la première chose à attendre, c'est si on travaille sur sa maison pour gagner facilement des économies et pour permettre d'être autonome. Voilà. Et donc, du coup, j'ai développé une formation, enfin, je n'ai pas le droit d'appeler ça une formation, un atelier, parce que je ne suis pas référencier Calliope. Donc, un atelier où les gens en groupe, on vient, j'ai retapé la grange, j'ai fait une salle de cours, à la fois on fait de la théorie et de la pratique, et je reçois les gens, pas plus de 10 personnes, enfin 10 avec moi, donc 9, et je leur donne toutes les clés, comment on s'y prend pour pouvoir tendre vers l'autonomie. À la fois les critères de choix, de comment, qu'est-ce qui est important pour aller, parce que l'autonomie, j'aime bien dire, il faut le comparer à la course à pied. En fait, l'autonomie, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Et en fonction du lieu que tu vas choisir, de la maison ou du terrain qui t'a plu, ben, ça va être plus ou moins dur. Parce que si tu as choisi une maison parce que certains ont eu un coup de cœur dans la vacance, ils sont en haut d'une montagne, il y a une très belle vue, il n'y a personne, il n'y a que nous les petits oiseaux, et puis s'il y a des méchants qui arrivent, on les voit de loin, ouais, c'est bien, mais si tu es à 1600 mètres carrés d'altitude, ben, faire ta nourriture à 1600 mètres d'altitude, c'est bien plus compliqué qu'à 500. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais tu reprends l'image du marathon, le critère que tu les fais, que tu sois isolé, ben, tu mets un sac à dos et tu rajoutes 1 kg ou 2 kg, et ainsi de suite. Tu as plein de paramètres qui font que ça peut devenir de plus en plus compliqué de rendre une maison autonome. Tu peux avoir une maison qui va coûter pas cher à un endroit et que ça va être facile à rendre autonome, à l'inverse, mm-hmm. tu peux avoir une maison que tu vas payer très cher et que ça va te coûter encore plus cher de la rendre autonome. Voilà.
Alors, tu parlais d'autonomie et donc tu fais des ateliers, mais est-ce que les gens, par exemple, ils viennent, je veux être autonome de A à Z, ou par exemple, il y en a qui vont dire, je veux être autonome rien que pour manger?
Alors, moi, je couvre tous les panels. Je couvre tous les panels. C'est-à-dire que si les gens ils veulent apprendre à faire des conserves, à faire de la charcuterie, à faire de la déshydratation, à faire de la fermentation, je peux leur transmettre ça. Mais la formation que je fais, c'est plus pour dire comment on fait pour tout, en fait, produire son eau, potabiliser son eau, produire son électricité, quelles sont les différentes solutions possibles.
D'accord. Eh bien, on va en parler donc dans la deuxième partie, parce que je sais que, bon, autonomie, j'ai l'impression que c'est vraiment très vaste, c'est un marathon, mais je pense qu'on ne sait pas tout, enfin si, toi, en l'occurrence,
non,
sais quasiment tout, on va dire, voilà, c'est ton domaine, moi je ne sais pas grand-chose, et c'est pour ça que j'écoute vraiment avec plaisir, mais là on va faire la petite pause musicale, toujours sur Radio Présence Figeac, toujours sur Passionnément Votre, merci.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence.
À Figeac 97.7.
Et nous voilà de retour à l'antenne sur Radio Présence Figeac 97.7, toujours passionnément vôtre et toujours en compagnie de notre invité de la semaine, c'est-à-dire Ludovic Andrieux. Donc encore merci d'être venu de la nuit, Jules. Même si je sais que tu es un peu local, parce que tu m'as dit que tu étais né à Decaze.
Oui,
donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas loin. Donc on est en train de parler donc, d'autonomia que oui. tu as créée pour, on va dire, oui, promouvoir l'autonomie, que ce soit la nourriture, l'eau, même l'électricité, je pense.
Oui, oui.
Donc on était en train d'en parler justement tout à l'heure. Alors je voulais parler un peu du le cliché que certains ont et que j'ai eu aussi. On est d'accord que c'est pas parce que tu es autonome que tu es automatiquement un nomade végétarien. On est d'accord, c'est voilà, tu m'as même dit dans les coulisses tout à l'heure que tes ateliers, il y a même des cadres qui étaient venus.
Ah, mais voilà, ça s'adresse à toute personne, à toute classe socio-professionnelle. Et après, moi, l'autonomie, je suis pas un ayatollah. J'aime bien le riz et je vais pas produire du riz. J'aime bien les pâtes. Les pâtes, ça peut se produire, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, en plus, moi, je préfère dire que je tends vers l'autonomie que d'être autonome. Parce que, en fonction des expériences et des grilles de lecture de chacun, tu as toujours quelqu'un qui va dire, ouais, mais parce que. Est-ce que tu es autonome parce que tu as un outil ? Est-ce que tu es autonome parce que tu as un outil que tu sais le réparer ? Ou est-ce que tu es autonome ? Enfin, tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc, le mieux, c'est de se débrouiller, de tendre vers l'autonomie. Et après, ce que je voulais aborder, c'est que l'autonomie, elle se fait en communauté. Moi, je suis pas, je prône pas l'autarcie. Je vais prendre un exemple concret. Moi, tout ce qui pique, voilà, les guêpes, les abeilles, c'est pas mon truc. Par contre, j'aime bien travailler la viande. J'aime bien faire des pâtés, j'aime bien faire du jambon de pays. Je troque volontiers un ou deux pâtés contre un kilo de miel. Parce qu'en plus, aller apprendre tout ce savoir-faire pour gérer 10, 12 ruches et tout ça, c'est du temps. Et ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire et le troquer avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Voilà quoi. Tu vois vraiment, l'autonomie, pour moi, ça, c'est à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une communauté de plusieurs personnes. Nos anciens, ils le faisaient à l'échelle d'un village. Et encore, ils n'étaient pas tout à fait autonomes parce que faire du sel en Aveyron, c'était compliqué. Il y avait toujours le marché qui venaient, mais bon, ils avaient beaucoup leur niveau, leurs besoins primaires étaient largement couverts à l'échelle du village. Voilà.
Mais du coup, voilà, donc t'as créé Autonomia, mais donc en plus d'Autonomia, tu fais des ateliers, des stages. Mais j'allais dire, mais comment ça se passe le quotidien de quelqu'un justement en autonomie au niveau de la culture, des animaux, comment se passe ton quotidien? Ça doit être des heures et des heures quand même.
Ça demande du temps. Si tu ne peux pas faire au moins 2-3 heures de travail physique par jour, c'est pas la peine d'espérer. Je suis vraiment. Il y a une réalité physique, c'est que ça demande du travail. Tu vois les bras là, j'ai des griffures partout, j'ai des trucs de ronces. À un moment donné, la nature elle donne beaucoup, mais il faut s'en occuper quoi. Je suis peut-être un peu à rebrousse-poil de certains youtubeurs qui disent que c'est facile, que tu jettes 4 graines et que le jardin du paresseux que c'est très bien et tout ça. Oui mais, c'est oui mais au bout de plusieurs années, oui mais, enfin voilà, ou parce qu'il y a du monde derrière, il y a des woofers, mais quand t'es tout seul, que tu fais tout seul, et puis il faut commencer petit, parce que sinon tu t'en dégoûtes. Moi l'année dernière j'ai fait une percelle pour les patates qui faisait, j'ai ramassé un cajou de patates, donc elle faisait allez, 10 mètres de long sur 1,50 m de large. Cette année, je suis passé à l'échelle supérieure, j'ai fait 50 mètres de long à peu près les patates sur 2 mètres de large.
Oui donc... je l'ai vu sur internet, c'est impressionnant. Une piste de bowling, mais c'est ça, c'est aussi long.
Voilà, mais à l'échelle d'une famille, je suis même pas sûr qu'avec ce que j'ai fait, j'en aurais assez de pommes de terre. Mais l'idée, elle est pas là. L'idée, c'est que j'ensemence, je récupère, j'ai de la nourriture qui est saine, qui vient de chez moi, et je vais en garder une partie pour remettre sur la propriété l'année d'après, et c'est la même patate que je garde, que je récolte et que je replante. Et donc, du coup, plus les années passent, plus ça s'adapte au terrain, et plus ça sera fertile. Voilà. J'ai fait pareil avec du maïs et tout ce genre de choses.
Hormis les pommes de terre, on va dire qu'elle est en autonomie les légumes ou les fruits qui sont les plus faciles
à produire,
voilà.
Ouais. Ben, un truc basique, la courgette. La courgette, ça vient facilement. Il y en a plusieurs variétés différentes. Tu peux l'échelonner sur ta production. La courgette, ça peut se faire aussi en fermentation. Ça peut se faire avec des gâteaux. Tu vois, il y a plein de choses différentes. Tu peux faire des conserves de courgettes en mettant du curry, en mettant des épices différentes. En fait, quand tu es dans l'autonomie, le but, c'est de lutter contre le goût. Parce que sinon, tu manges toujours les mêmes choses. Et c'est un peu toujours les mêmes choses tous les mêmes jours. Et donc, la courgette, tu peux faire facilement 5-6 plats différents. Sans aucun problème. Donc là, c'est un des exemples. Moi, j'aime bien aussi, par exemple, la patate douce, parce qu'il y a plein de légumes qu'on ne sait pas, mais la patate douce, les feuilles, ça se mange. Les jeunes pousses peuvent se manger en salade, et quand elles sont un peu grandes, tu peux les manger comme des épinards.
Ah, je savais pas.
Et après, il y a toute une... des choses qu'on a oubliées, mais dans les arbres, il y a beaucoup de choses qui sont comestibles dans les arbres. Tu prends des tilleuls, tu peux ramasser les jeunes feuilles, les jeunes pousses des tilleuls pour les mélanger dans ta salade. Les jeunes pousses de noisetiers aussi. Et donc, en fait, c'est un peu tout. Mais voilà, moi, j'ai planté des noisetiers, j'ai des noyers, j'ai des châtaigniers. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier pour la production de nourriture.
Et donc, tu dois avoir pas mal de terrain, j'imagine, pour vous dire tout ça.
Alors, j'ai 2 hectares, mais je n'utilise pas les 2 hectares. J'en ai plus de la moitié qui sont un peu comme en fermage avec une agricultrice bio. Voilà. Parce que sinon, pour faucher, c'est trop. Tout seul, en plus, moi, j'essaye d'éviter la mécanisation outrance. Alors, bon, j'ai ma tondeuse et ma débroussailleuse, mais tu peux pas faire... voilà, j'ai pas de... Pour le moment, j'ai pas de moutons, j'ai pas de gros animaux, quoi. Je voulais me restreindre à ce qu'on appelle la basse cour, c'est-à-dire poules, canards, lapins cochon d'Inde, mais c'est pas acté ça. En Amérique du Sud, ils mangent beaucoup le cochon d'Inde parce qu'en fait c'est moins malade que...
Ah, Armand, tu vois, tu vous fais du cochon d'Inde, tu vois, c'est sympa. Et donc, alors on va dire, voilà, au niveau des poules, tu as une autonomie en œufs, après tu as une autonomie en légumes, oui. Tu me dis aussi les belles et fruits,
oui.
Tu dois pas quand même pas aller souvent au supermarché, quoi.
Non, pour se faire plaisir, parce que moi je recule pas devant une belle côte de bœuf, tu vois. Mais je vais pas la produire, hein. Donc oui. C'est pour ça que je dis, je suis pas un ayatollah en disant c'est que l'autonomie. Par contre, ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui produisent un maximum de choses chez eux, ben, pour leur santé, pour la qualité de ce qu'ils mangent, pour le bien de la planète. Parce que même si tu fais que des tomates, ben, c'est la tomate qui a pas été produite au sud de l'Espagne dans une forêt de bâches et qui a été transportée, ou si tu as tes propres pommes, tu les auras pas traitées 32 fois comme c'est le cas dans un supermarché quand tu achètes ta pomme. En moyenne, elle a été traitée 32 fois, tu vois. Donc entre 0 et 100%, je pense qu'on peut tout le monde peut monter ce curseur pour
un... Alors, j'imagine, parce que donc là on a parlé alimentaire, mais j'imagine après par exemple tu dois être adapté des toilettes sèches, alors.
Oui.
Alors là, il y a beaucoup de... Enfin, moi le premier, maintenant je sais, mais à l'époque je savais pas, il y a beaucoup de mythes là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est exactement une toilette sèche pour ceux qui savent pas?
Oh ben, c'est comme un WC, sauf qu'au lieu d'appuyer sur un bouton et que quand tu appuies sur le bouton, tu as la chasse d'eau qui enlève le tout et que tout est fini, tu t'occupes plus de rien. Tu prends, moi j'ai un vase à côté avec une sciure et tu recouvres de sciure.
D'accord.
Et une fois par semaine, le seau, tu le sors et tu vas le mettre dans un endroit qui est à compost. Et en fait, c'est un cycle vertueux. C'est-à-dire que tu ne vas pas polluer. Parce que nous, en France, on utilise de l'eau potable pour nos toilettes. Et derrière, tu vas payer des stations d'épuration et c'est tout compliqué, tout ça. Alors, bien sûr que tout le monde ne peut pas avoir les toilettes sèches. Mais enfin, entre 1% de la population et puis 70%, tu vois, on peut peut-être avoir un juste milieu. Mais en plus, les toilettes sèches, quand on le sort, on appelle ça le fumain. C'est du caca humain avec des sciures. Tu le mets à composter et au bout de 3 ans, tu as fait ton propre engrais que tu peux utiliser pour le jardin et qui est super bon pour tes arbres fruitiers, ce genre de choses. Donc, et pareil pour l'urine, parce que même maintenant, il y a des nouvelles générations avec des séparateurs d'urine et où tu fais l'urine, et parce que l'urine, c'est une bombe d'engrais, en fait. Tu pourrais économiser des engrais chimiques si on récupérait à grande échelle à travers la France, les Chinois le font, hein, mais de l'engrais, ça éviterait d'acheter des engrais chimiques avec de l'urine filtrée, fermentée. Tu vois. Ah oui, c'est... Bon, il n'y a pas les lobbies qu'il faut derrière.
Et toujours dans c'est pas dans les clichés, mais dans les questions que je me pose. Et au niveau de l'eau, de la douche et tout, moi j'imagine que tu es bien obligé de te raccorder au...
Alors, c'est pareil, la douche, c'est tout dépend du besoin. Il y a des personnes qui vont prendre une douche 2 fois par jour ou 3 fois par jour de 20 minutes. Et puis, moi je suis passé un peu par l'armée, où en 3 minutes, tu peux avoir pris ta douche. Donc déjà, c'est pas la même consommation d'eau. Bon, 1 fois par jour, ça, c'est largement suffisant. Et moi, par exemple, ma maison, je suis autonome. Je récupère l'eau de pluie, elle est stockée dans une cuve en béton qui fait 7500 litres et qui est enterrée. Et après, elle est repompée, elle est filtrée, et je m'en sers pour me laver sans aucun problème.
Ah d'accord, donc t'es pas raccordé à l'eau, quoi.
Non.
Ça, c'est bien, par exemple.
Ben, en fait, c'est ça, l'idée de tendre dans l'autonomie. Ben, je n'ai pas de facture d'eau à payer, j'ai pas de facture d'électricité à payer, je me suis débrouillé, j'ai pas de crédit en cours.
L'électricité, c'est comment alors? C'est pas des panneaux solaires, puisque t'es pas...
J'ai des panneaux solaires,
si, solaire.
et des batteries.
D'accord.
Voilà.
Et donc, avec un panneau solaire, tu arrives à...
J'en ai pas un. Moi, c'est une installation. J'ai investi dedans parce que je voulais être tranquille pour pouvoir utiliser des machines pour travailler et tout ça. Mais j'ai plusieurs panneaux qui arrivent à une capacité de captation de 3000 watts, 3 kilos. Et par contre, là où j'ai beaucoup investi, c'est dans les batteries. J'ai 15 kilos de batteries. Mais quand tu rentres chez moi, tu allumes la lumière, tu as l'impression que tu sais, oui, si je te le dis pas, tu sais pas que tu es dans une maison autonome. Après, la maison, elle a été étudiée pour. J'ai pas de clim, j'ai pas de chauffage électrique, j'ai pas de cumulus, j'ai d'autres façons. Je me chauffe avec un poêle à bois en fonte qui fait 180 kg, j'ai un petit chauffe-eau gaz, une bouteille de propane me fait à peu près 6 mois pour avoir l'eau chaude. Ben, c'est voilà. Est-ce que je suis autonome ? Oui, je suis autonome tant que j'ai du gaz. Une bouteille me fait 6 mois, j'en ai deux qui sont branchés avec un robinet que si jamais ça coupe, que ma femme tourne au robinet, l'eau chaude repart, il n'y a pas besoin de débrancher. Donc ça me fait un an d'autonomie de chauffage. Et tu stockes une bouteille de plus, tu as un an et demi, et puis après, tu as les plans B que j'appelle à l'ancienne, tu fais chauffer l'eau. Il existe aussi maintenant des petites douches de camping. Où, enfin, vraiment, c'est... Voilà, tout dépend du niveau de curseur que tu veux, quoi.
Mais j'allais dire, donc, autonome est égal avec économe, on le veuille ou pas.
Oui.
Parce que tu me dis, ouais, pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau, c'est vraiment nickel. Et du coup, alors, on a vraiment fait, enfin, on commence à vraiment faire le tour de l'autonomie. J'ai encore beaucoup de questions à te poser, mais l'émission ne dure pas malheureusement des heures. Et là, nous allons clôturer donc la première partie de l'émission. Donc je te remercie déjà encore Ludo d'être venu nous voir de la nuit et Joule, ça fait quand même une petite trotte, et nous allons retrouver donc la deuxième partie. Vous êtes toujours sur Radio Présence, toujours sur Passionnément Votre. Merci, au revoir.
C'était votre émission Passionnément Votre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.